Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer une série sur justement sur l'Église. Au début d'année, on a parlé beaucoup de l'importance de l'écoute. Pourquoi écouter Dieu? Qu'est-ce que ça comporte d'écouter Dieu? On a pu voir que Dieu nous parle de différentes manières, mais on a besoin de comprendre, de saisir comment que le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur. Il nous parle à travers la parole de Dieu, il nous parle à travers une voix, mais il nous parle aussi à travers des personnes, à travers des circonstances, des événements. Et ensuite, on a vu que suite à l'écoute, ce qui est important, c'est d'obéir, hein. C'est bon d'entendre la voix de Dieu nous dire ce qu'il faut faire, mais après, il faut obéir, il faut se mettre en action. On a vu aussi l'importance justement de l'Église, comment que l'Église grandit, fonctionne, la raison d'être de l'Église. Et aujourd'hui, on va commencer à voir à travers justement les lettres de Jean dans l'Apocalypse, voir comment que qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église. Quelle est l'Église selon le cœur de Dieu? Quels sont les dangers qui guettent l'Église? Comment changer pour faire la volonté de Dieu? Vous allez voir que c'est pas ces recommandations ou ces lettres, ça s'adresse pas simplement juste à l'Église en physique, ou peut-être même à l'église de Carrefour-Saint-Henri ou à l'église particulière. Mais puisque nous sommes tous l'église, faisons tous partie de l'église, ces messages s'adressent à nous particulièrement. Lorsqu'on va voir les différentes églises, on va voir que le Saint-Esprit va peut-être donner des reproches, des encouragements, mais il parle à ceux qui sont à l'église. On a vu justement la semaine passée avec le pasteur Pierre Salambé à Québec, il nous a parlé sur l'apostasie. L'apostasie et comment que dans les derniers temps, justement, beaucoup de personnes vont perdre la foi, beaucoup de personnes vont se détourner de Dieu. Ils vont peut-être continuer d'être chrétiens de nom, vont continuer à dire qu'ils font partie de la famille de Dieu, mais en eux, c'est mort. Alors justement, durant cet été, on a pu voir justement l'importance d'être renouvelé. Hein. Lorsque dans l'été, on a pu se renouveler du côté physique, pour certains, on a pu avoir des vacances, des temps de repos, on a pu se renouveler dans nos forces. Et c'est aussi l'occasion justement de dire, Seigneur, donne-moi la passion d'être renouvelé dans mon esprit. On a vu Romains chapitre 12, verset 2 qui dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le texte de la traduction seconde va dire, ne vous conformez pas au monde présent. On a vu que justement le commentateur biblique MacArthur va dire que par rapport à ce mot conformer, c'est adopter une expression extérieure qui ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si on est des chrétiens qui disent, oui, nous sommes chrétiens de l'extérieur, on montre qu'on est chrétien, mais à l'intérieur, c'est mort. À l'intérieur, il se passe quelque chose qui est très différent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît chacun de nous, sans juger, des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, qui sont peut-être été dans enthousiasme pour le Seigneur, mais qui aujourd'hui sont peut-être rentrées dans la routine du monde, dans la pensée du monde, dans le travail, dans les soucis du monde, et n'ont plus le temps pour pouvoir être vraiment consacrées au Seigneur. Donc un esprit renouvelé est imprégné par la parole de Dieu et contrôlé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas là juste pour nous encourager, mais elle nous transforme, pour qu'on ne soit pas justement des chrétiens juste de surface, mais des hommes et des femmes qui laissent vraiment le Saint-Esprit nous transformer vraiment en profondeur, permettre qu'on puisse vraiment être renouvelé et d'avoir la pensée du Christ. Alors, regardons quelques points. Nous avons vu ce printemps, juste un petit rappel de ce que l'Église est et ce que Jésus fait. On a vu que Jésus a dit qu'il bâtirait son Église. Donc, on a pu le voir, hein, comment que lorsque, à un moment donné, dans une conversation avec Pierre, avec le disciple Pierre, Jésus va lui dire, Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Jésus a bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont il est la pierre angulaire. On le voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, on sait dans l'ancien temps comment que la pierre angulaire était importante. Ils n'ont pas comme aujourd'hui du ciment, mais ils taillaient leur pierre de façon que lorsqu'elle posait sur le bâtiment, elle restait solide. Et même, on voit encore aujourd'hui des constructions de millénaires, comment que c'est fait. parce qu'ils avaient la façon de le faire. Et Jésus va dire, je suis la pierre angulaire, je suis la pierre angulaire de ce royaume, de cette église. Et il a construit à travers les disciples, à travers ce qu'il a enseigné pendant 3 ans ses disciples, il leur a dit, maintenant, allez-y, mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Encore aujourd'hui, donc, le royaume de Dieu se bâtit à travers l'église, à travers le corps du Christ, à travers les chrétiens qui sont renouvelés dans leurs pensées, qui offrent leur vie, leur corps, comme un sacrifice vivant. Et qui veut faire la volonté de Dieu. Nous voulons croire que oui, Jésus bâtit aussi l'Église de la Force Henri, selon son plan et sa volonté. Voilà pourquoi que nous voulons encore dans cet automne dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Quel est le plan? Nous voulons voir aussi d'être une Église selon ton cœur. Nous ne voulons pas aller dans les erreurs ou dans les reproches que nous allons voir au fur et à mesure dans les différentes Églises que nous allons lire dans les lettres que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Prochain diable, nous avons vu que Jésus est mort pour son Église. Actes chapitre 20, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Nous savons quand justement que Jésus-Christ, à la fin de sa vie, a été jusqu'au bout sur la croix pour se sacrifier. Et tout à l'heure, à travers la Sainte-Cène, on va se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Et il l'a fait pour le peuple, il l'a fait pour chacun de nous, il l'a fait pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église puisse rayonner de lui. Voilà pourquoi que la mort de Christ va nous encourager à être transformés pour refléter vraiment Jésus-Christ dans tous les aspects de notre vie. Encore aujourd'hui, cette mort sur la croix nous donne la vie, doit se refléter dans l'Église, le corps du Christ universel, mais aussi dans chaque Église locale. Afin qu'on puisse voir qu'entre nous, entre les frères et sœurs, on puisse s'aimer dans l'amour réel. La semaine passée, lorsque nous étions justement à Québec avec des frères et sœurs qu'on ne connaissait pas forcément, de voir cette amitié, de voir toute cette joie d'être ensemble, c'était merveilleux. Ça m'a vraiment touché de voir, de dire, Seigneur, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. De savoir qu'on ne vient pas de la même culture, on n'a pas la même façon de louer le Seigneur. Mais ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Le troisième point que nous avions vu, c'est que Jésus aime l'Église. Jésus aime l'Église. Jésus n'a pas simplement aimé l'Église en s'offrant sur la croix, mais il continue à démontrer son amour incroyable pour son Église, même en ce moment. Regardez Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc Jésus a tellement aimé l'église qu'il a donné son esprit pour qu'il puisse nous accompagner jour après jour, afin qu'on puisse discerner avec un esprit renouvelé justement, quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il y a de mieux pour nous et pour l'église. Donc Jésus aime tellement l'Église qu'il ne veut pas la soumettre à une contrainte, à des obligations, de faire des choses difficiles ou impossibles. Mais Jésus vraiment aime l'Église profondément, afin qu'elle puisse expérimenter entièrement tout son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité qu'il veut nous donner jour après jour. On sait que ce texte, le premier verset, il parle de la référence du mari qui doit aimer sa femme, non pas dans la contrainte, non pas dans une soumission qui est mal proportionnée, mais dans un amour tellement grand. Lorsque la femme voit que son amour, que son mari aime dans un amour tellement grand, la femme va se soumettre non pas par obligation, mais par amour à son mari. Jésus a aimé l'Église pour que nous puissions nous aussi aimer l'Église. Alors à notre tour, nous aurons aussi, en recevant tout cet amour de Jésus, on le veut le refléter par nos pensées, par nos paroles, par notre témoignage, par nos actions à travers aussi l'Église. Et nous avons dit que oui, c'est vrai que l'Église est le reflet de tout ce que nous sommes ensemble ce matin. Si l'Église vit des belles choses, c'est parce que les membres vivent des belles choses. Si l'Église vit des choses difficiles ou est morte, c'est parce que les membres aussi vivent des choses aussi qui sont difficiles ou qui sont morts aussi dans le Seigneur. Donc, Jésus aime l'Église et désire que nous puissions la refléter à travers nos actions jour après jour. Alors aujourd'hui, on va regarder que Jésus sanctifie l'Église. Parce que Jésus n'a pas simplement aimé l'Église au point de mourir pour elle, comme on a pu le voir dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Mais il la sanctifie. À quatre reprises dans le verset que nous avons lu, de verset 26 et 27, Paul répète que Jésus sanctifie son Église en utilisant différents mots ou expressions. Ce sacrifice que Jésus a fait une fois pour toutes sur la croix nous permet justement d'être lavés de nos péchés, nous permet maintenant de continuer de vivre, non pas selon la chair ou selon les pensées de ce monde, mais selon les pensées de Dieu, selon sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Donc le défi que nous avons, c'est que souvent nous avons la connaissance que Dieu nous aime, que Jésus est mort sur la croix pour nous démontrer son véritable amour. Mais le défi que nous avons souvent, c'est que Jésus veut plus que nous aimer. Il veut aussi qu'à notre tour, nous puissions l'aimer. Il veut que tout ce qu'il a donné pour nous, il puisse aussi le recevoir envers lui, mais qu'on puisse aussi le vivre aussi autour de nous. Il désire que son amour nous transforme, nous change encore plus pour être à son image. Et ce processus, on le fait par la sanctification, c'est-à-dire de se purifier jour après jour, afin d'abandonner justement notre ancienne vie, une vie qui n'est pas conforme selon le plan de Dieu, pour pouvoir marcher dans le chemin que le Seigneur désire, selon sa parole, selon sa vérité. Souvent, ça arrive que les chrétiens vont rester dans la connaissance de l'amour de Dieu. Ils disent « oui, Dieu m'aime, et puis moi je peux aimer Dieu ». Mais ils ne le mettent pas concrètement en action. Ils n'arrivent pas à réellement mettre Dieu pour dire « ok, j'aime Dieu, mais qu'est-ce que je donne à Dieu ? Qu'est-ce que je donne Dieu ?» Peut-être le dimanche matin aux célébrations, mais le reste de la semaine, je fais ce que je veux. Le travail de sanctification se fait jour après jour. On n'arrive pas à un moment donné dans notre vie, même après 10, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, pour dire qu'on arrive au summum, et puis là on peut dire, ben maintenant j'ai tout appris, je connais tout, j'ai plus besoin d'agrandir, de sanctifier. Mais jour après jour, même après des années, même peut-être à la veille de notre mort, on a encore besoin de dire, Seigneur, continue de me purifier, continue de me sanctifier en toi. Prochain diable, nous savons que justement, l'ennemi nous attend. L'ennemi est là pour nous distraire. L'ennemi, justement, est là pour nous permettre de ne pas grandir de cet amour. Regardez dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, qui dit « Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. » Ce texte est écrit à plus de 2000 ans. Donc déjà, Paul le disait à son jeune serviteur, « Regarde, il va y avoir des temps difficiles. » Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est tellement réalité. On voit combien de chrétiens aujourd'hui sont bombardés depuis l'apparition surtout d'Internet, de messages par les faux prophètes, toutes sortes de choses qui sont véhiculées par Internet, sur YouTube, etc., qui peuvent, des fois, certains peuvent être bons, mais il y a souvent beaucoup de mauvais messages, de fausses doctrines, de théologies qui ne correspondent pas à la vérité de Dieu. Et les gens vont écouter cela et sans faire attention, vont être entraînés dans ces mensonges et vont petit à petit se détourner de la vérité de Dieu. Je crois que chacun de nous, on connaît des chrétiens. On connaît des chrétiens qui avaient bien commencé dans leur vie, mais qui, à un moment donné, se sont détournés. On préférait suivre peut-être un certain prophète, un certain prédicateur, qui mettait plus d'accent sur la richesse, sur la prospérité ou sur d'autres choses, sur les miracles, sans aller en profondeur dans la vérité, dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi que jour après jour, en tant que chrétien, on a besoin que cette sanctification, que cette purification continue de travailler en nous. On a besoin de vraiment qu'elle continue de nous changer, de nous transformer jour après jour. Parce que sinon, comme beaucoup malheureusement de chrétiens, et même des fois aussi des personnes que nous avons connues ici à l'Église, sortent de l'Église, quittent l'Église pour différentes raisons. Mais souvent, on le sait que lorsque ces personnes quittent l'Église, s'ils ne vont pas dans une autre Église, à un moment donné, leur foi va se refroidir. Leur connaissance va rester une connaissance juste biblique, mais pas une connaissance qui va transformer leur vie. Parce qu'on a besoin, des frères et sœurs, on a besoin de l'Église pour pouvoir nous travailler, nous transformer, pour pouvoir être selon l'image de notre Seigneur. Voilà pourquoi que Dieu a permis justement à l'apôtre Jean, par l'action du Saint-Esprit, de nous avertir justement à travers ses lettres pour nous avertir des dangers qui peuvent se passer dans l'Église. Alors, ouvrons notre Bible. Et aujourd'hui, on va simplement regarder D'abord, on va commencer la prochaine fois une lettre à la fois. Mais aujourd'hui, on va regarder pourquoi, qu'est-ce que Jean va recevoir comme instruction. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, jusqu'au chapitre 2, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 10, qui dit: Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait: Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces sept églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui lui entourait la poitrine. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Prochain, bien. Verset 15. Et ses pieds étincelants comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grands eaux. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles. Et sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant: N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Verset 20. Mais d'abord, voici ce qu'est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers des sept églises. Verset 1, chapitre 2. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Donc, ce texte que nous venons de lire dans cette introduction, lorsque Jean est en extase et lorsqu'il voit cette vision, lorsqu'il entend cette voix, il est touché et il va pouvoir écrire ce que l'Esprit de Dieu va dire pour ses églises. Nous savons que le titre de Fils de l'homme est attribué à Jésus. Il a vu Jésus lui-même. Il est le premier et le dernier, celui qui est mort pour le monde, celui qui vient ressusciter et qui vit pour l'éternité. Donc, dans l'explication que Jésus va donner à Jean sur l'état de l'Église, il démontre que c'est lui, Jésus, qui est la tête de l'Église, c'est lui le chef. Et dans le verset 20, il va expliquer le secret des sept étoiles, des sept chandeliers. Donc, les sept étoiles sont les anges des sept Églises. Il y a eu plusieurs explications de la signification de l'ange ici. Certains pensent que ce sont des anges protecteurs de chaque Église. Mais l'explication qui correspond le mieux, ce sont ces anges qui sont des messagers, des anciens ou des représentants de chaque Église, dans un sens de la vie céleste ou surnaturelle de l'Église. Mais le plus important, ce n'est pas l'ange qui va recevoir le message, mais de comment que l'Église va le vivre, le message qu'il va recevoir. Justement, les sept chandeliers sont les sept Églises que nous voyons les noms. Donc, on sait que dans l'ancien temps, les chandeliers étaient porteurs de lumière, qui constituent donc un symbole fort de ce que l'Église doit être, c'est-à-dire porteur de lumière dans le monde, pour briller pour Jésus au sein d'un monde de ténèbres. Donc, ces églises existaient réellement, physiquement, dans une partie de l'Asie. Pour nous aujourd'hui, même si peut-être on ne connaît pas ces églises proprement dites, mais ces messages restent forts et les directives sont claires. Ce message ne s'adresse pas juste à ces églises, mais s'adresse encore à nous aujourd'hui. On dit même que peut-être les sept églises représentent sept époques de l'Église dans ces 2000 ans. On va voir un peu ce que les commentateurs vont dire aussi dans les prochaines fois. Mais on va voir que chacun des défis, des commentaires, des reproches, des encouragements que Jésus va dire à travers l'Esprit de Dieu à ces églises peut aujourd'hui encore nous encourager, peut encore aussi aujourd'hui nous montrer le chemin à suivre. Prochain diable, nous voyons donc dans le premier verset du chapitre 2 que Jésus marche au milieu des sept chandeliers d'or. Que fait Jésus lorsqu'il marche au milieu de l'Église? J'aimerais vous partager quelques points. Vous pouvez peut-être le noter sur votre cahier, sur un papier. Vous savez que je suis donc le renouvellement de l'Église. Je vais arriver dans cette deuxième année et je suis toujours enthousiaste de ce temps où je peux vraiment, avec des confrères de la France, du Québec, réfléchir, prendre du temps aussi dans le Seigneur pour pouvoir être renouvelé moi-même et pouvoir aussi renouveler aussi l'Église. Voici ce qu'il dit par rapport justement, par rapport comment que Jésus marche au milieu de l'Église. Donc, A, il évaluait le comportement actuel. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 5, hein, comment que l'Église d'Éphèse, où l'Esprit va dire qu'il connaît son œuvre, il connaît son travail, sa persévérance. Voici les bons mots que justement Jésus va dire à travers son Esprit à l'Église d'Éphèse. On voit aussi point B, il recommandait un comportement actuel correct. On peut le voir avec l'église de Pergame dans Apocalypse chapitre 2, verset 13. Comment elle est restée fermement attachée, qu'elle n'a pas renié sa foi en Jésus, même lorsque Antipas a été mis à mort. Il y a eu de la persécution dans cette église, mais malgré cela, ils sont restés fermes dans leur foi et l'Esprit va dire que c'est un comportement qui est correct, qui est bon. Point C, il exhortait un comportement correct, dans le sens que on le voit dans l'église de Thyatire, qui dit dans le chapitre 2, verset 25, qu'ils tenirent fermement ce qu'ils avaient jusqu'à ce que Jésus revienne. Il va dire, mais tiens ce que tu as eu, mais jusqu'à ce que je revienne, de continuer même dans le futur, d'avoir ce comportement correct. Point D, il réprimait les mauvais comportements. On connaît l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 15, qui dit qu'elle était ni froide ni bouillante. On va voir pourquoi que l'Esprit va dire qu'elle est ni froide ni bouillante. Parce qu'on va voir que dans la plupart des reproches, il va donner aussi quelque chose, un sens par rapport à la ville, par rapport aux situations qui se passent. Point E, il avertissait de la discipline et du jugement. On peut voir avec l'église de Pergame, dans Apocalypse chapitre 2, verset 16, qui lui dit de changer, sinon Jésus va venir sans tarder et combattre ces gens qui pratiquent le péché. Donc il avertit que s'il n'y a pas de changement, il y aura la discipline, qu'il va y avoir du jugement. Point F, il recommandait de se repentir de leur mauvais comportement. On peut voir avec l'église de Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, verset 3, que Jésus va lui dire va lui dire d'obéir et de changer. Point G, il réconfortait. Donc ces différents points démontrent comment que Jésus veut, à travers ces églises, démontrer des comportements qui sont justes, qui sont saints. Décrier peut-être aussi des mauvais comportements, de se repentir, d'avertir avant de pouvoir enlever le chandelier de sa place. Donc, ce que nous voyons, c'est que Jésus désire en ce moment, c'est diriger son Église, c'est le permettre, parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Églises aujourd'hui, même si elles disent qu'elles partent d'un Dieu, même si elles louent le Dieu, mais ne permet plus à Dieu, au Saint-Esprit, de vraiment travailler. Toutes ces louanges qu'on voit pour les bons comportements, toutes les recommandations ou les avertissements que l'Esprit dit à ces églises, Jésus veut nous les adresser à nous, chrétiens, et nous aussi en tant qu'église. Dieu avertit les églises, Dieu les évalue, Dieu recommande comment il faut se comporter, Dieu les encourage à changer. Jésus les réprimande ou les exhorte selon ce qu'ils vivent. Alors, où est Jésus en ce moment? Il est toujours en train de marcher parmi ses chandeliers. Il n'est pas simplement juste au ciel qu'il essaye de voir ses églises par le haut. Il veut marcher, il veut être avec nous, il veut nous accompagner pour que nous puissions marcher dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Pourquoi il le fait? Il ne veut pas enlever le chandelier, mais il préfère de nous récompenser. Regardez Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. J'enlèverai ton chandelier, dans le sens que la lumière qui doit briller dans l'église, si elle ne brille plus, alors le chandelier n'a plus sa valeur de montrer la lumière, d'éclairer. Ce qui veut dire que l'église n'a plus son rôle d'éclairer le monde, de briller de la lumière de Dieu. Alors elle devient inutile. On lui a ôté son véritable rôle. Mais au contraire, Jésus veut récompenser ses églises. Regardez, Il veut leur donner la couronne du vainqueur. Avec l'église de Smyrne, on voit dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il veut leur donner une pierre blanche, pourtant un nouveau nom. On le voit dans chapitre 2, verset 17, avec l'église de Pergame. Point C, il leur donne le pouvoir de dominer les nations, avec l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, verset 26. D, il les habillera de blanc, et leur nom ne sera jamais effacé. Il parle à travers l'église de Sardes, on le voit dans chapitre 3, verset 5. Ils deviendront des piliers dans le temple, avec l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Il les invitera à s'asseoir avec lui sur son trône. On le voit pour l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Donc voilà l'essentiel. Jésus ne veut pas que ces églises passent à côté de tout ce qui est prévu pour elles. Et c'est pourquoi il veut marcher au milieu d'elles, en les évaluant, en leur donnant les conseils, afin qu'au moment du jugement final, elles puissent se tenir avec confiance devant lui. Voilà pourquoi que ce message de cette église est important pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous avertit chacun de nous personnellement, afin qu'on puisse encore rayonner de sa lumière, que nous puissions continuer d'éclairer le monde, afin que les gens puissent recevoir cette lumière et être transformés par le sang de Jésus-Christ. Alors pour terminer, pour cette rentrée, est-ce que nous pouvons dire à notre Seigneur, je désire être renouvelé par toi, d'être éclairé et conduit à la lumière et la vérité de Dieu. Je désire me laisser sanctifier par toi, d'être purifié, afin que je sois un témoin fidèle et juste, qui t'honore et qui agit dans la vérité de Dieu. Je désire que tu marches avec moi et que tu me dises si mes comportements ne sont pas justes, si je suis sur la bonne voie. Ce matin, nous allons prendre justement la Sainte Cène, qui est le signe de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Par ce repas, Jésus nous rappelle tout son amour envers nous, son sacrifice qu'il a fait pour nous donner la vie. Par les éléments que nous allons prendre, on se rappelle ce que Jésus peut et veut nous pardonner. Il veut nous remettre sur le bon chemin du salut. Il veut nous mettre sur la route qui nous amène à lui. Alors, est-ce que nous allons laisser le Saint-Esprit nous révéler, comme il l'a fait à Jean pour les sept églises? S'il y a des comportements qui lui plaisent et qui veut nous encourager à poursuivre, s'il y a des comportements à changer qui ne sont pas là pour la gloire de Dieu et que nous avons besoin de changer, d'abandonner, laissons le Saint-Esprit nous le dire. S'il y a des avertissements et que nous devons demander pardon parce qu'on s'est éloigné, parce qu'on fait des choses qui ne sont contraires à Dieu, c'est des encouragements que le Saint-Esprit veut nous donner pour persévérer. Alors ce matin, couvrons notre tête et on va prendre un petit chant qui s'intitule « Dieu Tout-Puissant » et que ce rappel, et durant ces prochains temps, je vous encourage à lire et à relire plusieurs fois ces lettres que Jean a écrites à ces différentes églises et de dire « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans tes reproches, dans les encouragements que je peux prendre pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être j'ai besoin de changer ?» Laissons le Saint-Esprit même ce matin, avant de prendre la Sainte Cène ensemble, pour dire « Seigneur, j'ai besoin de renouveler dans mon esprit envers toi. J'ai besoin de laisser peut-être un fardeau dans ma vie qui me tient trop à cœur. Il y a quelque chose, peut-être un comportement, une façon que je fais quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas. Je veux l'abandonner à tes pieds parce que je veux rentrer dans cette nouvelle saison avec toi. » Vous allez voir que dans les différents avertissements, Jésus n'est pas tiède. Jésus n'est pas simplement juste de dire « fais attention ». Il a dit, comme on vient de lire, « si tu ne changes pas, je vais enlever le chandelier. Je ne vais plus marcher devant toi parce que tu désobéis d'une façon simplement ouverte, sans te repentir. » Alors on peut ce matin, devant la table qui nous est adressée, de dire « Seigneur, oui, j'accepte que ton sang encore me purifie. J'accepte que ce sang me pardonne de mes péchés aujourd'hui. Je veux laisser à tes pieds tout peut-être comportement qui ne te plaît pas, toute chose qui me tient trop à cœur, toute chose qui m'empêche de grandir, de marcher avec toi, afin que je puisse avancer, aller de l'avant. » Alors, j'aimerais inviter nos sœurs à venir devant et à nous accompagner dans ce chant pour simplement nous préparer notre cœur et parler au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous diriger pour que vous puissiez voir que Dieu a quelque chose aussi pour vous ce matin. Alors, pendant que nous avons distribué les aliments, on va demander à Cora de reprendre simplement le refrain. Nous sommes invités ce matin à venir dans sa présence à travers ce repas qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous voulons prendre aussi ce matin dans le sens de dire, Seigneur, tu nous rappelles l'importance d'être purifié, d'être sanctifié, de continuer de marcher avec toi d'une façon juste et digne. Alors que nous puissions venir avec un cœur repentant, un cœur plein de demande de pardon, s'il y a des choses qu'on a besoin de le faire, avec un cœur repentant, dire Seigneur, il y a des choses dans ma vie que j'ai besoin d'abandonner pour te suivre d'une façon nouvelle, renouvelée. Peut-être qu'il y a des angoisses, des doutes dans ma vie que je traîne, que j'ai besoin de marcher par la foi avec toi. Alors, on est invité à venir devant cette table, de pouvoir recevoir ces éléments. Alors, simplement, comme un signe que nous voulons le faire, on vous invite à venir vous lever, à marcher devant cette table, à prendre les éléments et ensuite retourner à votre place. On va les prendre tous ensemble. Comme un signe de dire, Seigneur, oui, je veux marcher avec toi. Je veux que toi, tu marches avec moi d'une façon juste et digne. Alors, on vous invite à venir à sa table. Alors, entendons justement cette prière de consécration des éléments. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour souffrir la mort à la croix pour notre achat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et total pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à ta part par obéissance à ton Fils Jésus-Christ, qui dans ton Saint-Évangile nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Entends-nous, ô Père miséricordieux, quand nous te demandons humblement de nous accorder, en prenant ce pain et cette coupe, comme il a ordonné en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en donnant à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous te remercions pour ce rappel à travers ce repas, à travers ces éléments que tu as offert ton corps, un sacrifice pour nous donner la vie. Toi, le Fils de Dieu, tu as accepté d'aller jusqu'au bout, de mourir, d'être maltraité, injurié, abandonné. Tu l'as fait par amour. Nous voulons, Seigneur, encore ce matin nous rappeler que c'est uniquement par toi que nous avons accès au trône céleste, à notre Père. Nous voulons te remercier aussi pour ce sang qui rappelle que tu as versé ce sang pour nous laver de nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, parce que devant toi, nous sommes purifiés, nous sommes lavés pour pouvoir être saints, pour pouvoir être purs, irréprochables comme tu le demandes. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin l'importance, Seigneur, de marcher avec toi d'une façon juste et digne. Dans cette rentrée, dans cette nouvelle période qui se s'ouvre, nous voulons, Seigneur, continuer d'être renouvelés en toi. Nous voulons continuer, Seigneur, de lever les yeux uniquement sur toi. Nous voulons continuer que, Saint-Esprit, tu puisses encore nous parler, nous montrer s'il y a des choses dans notre vie qui ne t'honorent pas, qui ne te louent pas. S'il y a des choses, que, Seigneur, que tu veux approfondir pour que nous puissions avancer. Alors oui, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour parce que tu l'as fait par amour. Merci parce que tu nous as donné l'Esprit Saint en nous et qu'il continue de nous rentrer, de nous faire avancer avec toi. Nous voulons t'adorer, te louer, toi seul, Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Garde vos corps et vos esprits dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous maintenant et à jamais. Amen.
Amen. Amen.